Radio Okapi. Journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Guy Kabombo, moi d'invita, invite les jeunes du Kasaï central à s'enrôler au sein des FRDC. En séjour à Kananga, le vice-premier ministre de la Défense nationale les appelle à aimer la patrie et à se battre pour la libérer. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme accuse le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda d'avoir commis des exécutions sommaires d'enfants à Bukavu au sud Kivu. La situation des droits de l'homme se détériore fortement, entraînant des graves violations des droits de l'homme selon l'ONU. Nous aurons comme invité à la fin de ce journal le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Vous allez suivre aussi dans ce journal la deuxième édition de la série de reportages que propose Radio Okapi sur l'exploitation des minerais en RDC en 2024. Après le diamant, aujourd'hui, on va parler du cuivre et du cobalt. Bonjour à tous. Au Kasaï central, le vice-premier ministre de la Défense nationale appelle ses administrés à s'enrôler dans l'armée pour sauver la RDC face aux agresseurs. Guy Kabombo Mwadian Vital a dit hier à Kananga lors d'un meeting de sensibilisation animé au stade Kapanda dans la commune de Katoka. Il s'est adressé particulièrement aux jeunes, les invitant à aimer la patrie et à se battre pour la libérer. Les propos de Guy Kabombo Mwadian Vital sont recueillis par François Kadima.
Je m'adresse particulièrement aux jeunes dont l'âge varie entre 18, 22 jusqu'à 23 ans. Vous devez vous lever pour aider le pays. Vous devez vous inscrire à la formation militaire. C'est parce que quand nos FARDC actuels seront fatigués, vous prendrez la relève et vous battre pour le pays. La RDC est attaquée et nous devons nous lever. Nous sommes attaqués par le Rwanda à cause de différentes richesses que le pays régorge.
Après Kananga, le vice-premier ministre de la Défense nationale s'est également rendu à Tshikapa, province du Kasaï, pour la même sensibilisation des jeunes. À Kisangani, l'heure est à la collecte de sang pour des militaires blessés au front lors des affrontements entre le M23 soutenu par l'armée rwandaise et les FRDC. La division provinciale de la santé sous le haut patronage du gouverneur de province de la Tshopo organise depuis lundi cette campagne de collecte de sang de 3 jours et qui se clôture ce mercredi soir à Kisangani. Selon le médecin coordonnateur provincial du programme de transfusion sanguine, 500 poches de sang sont attendues au terme de cette opération. Le premier jour, plus de 60 poches de sang ont été collectées. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Dans l'enceinte de la mairie où se déroule cette campagne, des tentes y sont installées pour recevoir les donneurs bénévoles de sang. Ceux qui sont sélectionnés remplissent chacun une fiche de consentement avant de procéder au prélèvement. Le docteur Chiribin Bongo, directeur du Centre provincial de transfusion sanguine, explique les critères de validation des produits sanguins recueillis auprès des donneurs.
Il y a d'abord le poids, il y a l'âge, il y a les conditions physiologiques comme les femmes enceintes, les femmes en menstruation, les femmes allaitante ne donne pas. Et deuxièmement, tous ceux qui sont malades ne peuvent pas donner du sang. Donc les seules personnes qui peuvent donner du sang, ce sont les donneurs qui sont en bonne santé.
Certains habitants de Kisangani n'ont pas hésité à adhérer à cette campagne dont l'objectif est d'assister les blessés au Nord Kivu. Valentin Salomou est l'un d'eux.
J'ai accepté de donner mon sang à mes frères qui sont là à Goma, à Bukavu, ceux qui souffrent à l'hôpital pour le moment et qui ont besoin de sang pour sauver des vies.
Outre le site de prélèvement de la mairie, le coordonnateur provincial du programme de transfusion sanguine dit sillonner différentes institutions de la place pour récolter du sang afin de juguler la pénurie de ces produits à l'hôpital général de Goma. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
De son côté, l'ONG de défense des droits humains, CRDH, demande aux armées congolaises et ougandaises d'intensifier les opérations contre les rebelles des ADF dans le groupement des Bandavilemba, c'est dans la partie sud-ouest du territoire d'Irumu. Le coordonnateur de cette ONG a fait cette déclaration hier après le déploiement de nouveaux militaires ougandais en territoire congolais dans le cadre de la mutualisation des forces pour lutter contre les ADF. Christophe Mouniandero indique que ces rebelles occupent aujourd'hui une dizaine de localités où ils tuent des civils et pillent leurs biens dans le champ. Pour lui, il est inconcevable que l'on continue à compter des morts pendant que les armées ougandaises et congolaises affirment mutualiser leurs forces pour éradiquer ce groupe armé. Christophe Mouniandero est joint par Ezekiel Mouzaliwa.
on peut augmenter les effectifs et on les cantonne dans des camps sans qu'on aille vers l'ennemi, c'est zéro. Comment expliquer là où il y a une multitude de forces, là où il y a l'augmentation des effectifs et des UPDF, mais quand on ne lance pas des opérations pour traquer ces terroristes, ils s'attaquent contre l'ennemi, on ne peut pas dire qu'on peut réussir à gagner cette guerre. Du côté de Ndimo, l'ennemi est en train d'être visible au niveau des montées. Et vers le côté du village Bouarasoura, l'ennemi est localisé vers Apakolu et entre Kasoko et Maimunde, dans une zone qu'on a toujours appelée Bouara. Donc vous verrez que presque la partie ouest du groupement Banavilemba, c'est là que l'ennemi a mis ses différentes positions. Nous avons compris qu'à l'est de la République, la guerre est prise comme un business où les gens viennent juste pour s'enrichir. Et nul n'ignore que les pays voisins sont pointés du doigt et on se dit que réellement, ce n'est pas un autre moyen pour qu'on voie comment encore venir.
Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a commis des exécutions sommaires d'enfants à Bukavu au sud Kivu. C'est ce qu'a rapporté hier le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon Ravina Shamdasani, porte-parole du bureau des droits de l'homme de l'ONU à Genève, la situation dans l'est de la RDC se détériore fortement, entraînant des graves violations de droits de l'homme et des abus tels que des exécutions sommaires, des violences sexuelles et sexistes liées au conflit. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Le bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme note que des hôpitaux et des entrepôts humanitaires ont été attaqués et des menaces ont été proférées à l'encontre du système judiciaire. L'avancée du M23 soutenue par le Rwanda dans le sud Kivu a plongé la région dans une crise sécuritaire et humanitaire complexe, provoquant des déplacements des populations. L'ONU affirme également avoir recensé des cas de mauvais traitements, des violences sexuelles et sexistes liées au conflit, de recrutement d'enfants et des recrutements forcés, d'intimidation et de menaces de mort. Le haut-commissaire des Nations Unis aux droits de l'homme évoque également dans ce document des informations sur des arrestations et des détentions arbitraires, des traitements dégradants et des allégations des retours forcés de jeunes Congolais fuyant la violence dans des pays voisins. À la suite de l'évasion des prisons centrales de Kabare et Bukavu le 14 février, le bureau du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme affirme avoir reçu des demandes de protection de la part des victimes et des témoins.
52 millions de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs urgents de 480 000 enfants en RDC. Selon l'UNICEF, l'insécurité dans la partie est du pays a eu de nombreuses conséquences sur la vie des enfants. Dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, environ 2500 écoles et espaces d'apprentissage ont fermé leurs portes en raison des violences. Paulin Kweseu, porte-parole de l'UNICEF à Goma, exprime son inquiétude face à cette situation. Dans cette zone, 795 000 enfants sont désormais privés d'éducation contre 465 000 en décembre 2024. Il évoque également d'autres défis, notamment ceux liés à la protection et à la prise en charge sanitaire des enfants. Il est au micro de Ronelly Ntibonera.
Les chiffres sont assez impressionnants et vous doutez bien que UNICEF tout seul ne peut pas répondre à ce besoin, mais UNICEF, en coordination avec tous les partenaires, essaye de trouver des financements pour pouvoir mettre en place des programmes d'éducation, que ce soit l'éducation d'urgence, mais aussi renforcer les différentes structures étatiques qui travaillent dans le domaine de l'éducation, les PSP et tous les autres. Donc c'est un grand défi, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il en va de l'avenir de ces enfants et il faut qu'on trouve les moyens de faire en sorte qu'ils retournent à l'école. C'est ce à quoi nous attachons en ce moment.
7000 tonnes de diverses commodités destinées aux communautés déplacées internes au Sud Kivu ont été pillées dans les entrepôts du PAM à Bukavu au Sud Kivu. Selon les chiffres rendus publics par cette agence onusienne, ce stock était réservé aux populations vulnérables se trouvant dans les sites des déplacés. Le chargé de communication du PAM regrette que ces entrepôts soient visés alors que ces activités visent en premier lieu à lutter contre l'insécurité alimentaire et la faim en général. Claude Kalinga est joint par Ronéline Tibonera.
Le PAM regrette que ces entrepôts aient été la cible des pillards, alors que ces interventions ont pour objet la lutte contre l'insécurité alimentaire et la faim. Des milliers de personnes dépendent de cette aide vitale. Elles vont devoir en être privées à court terme ou attendre les prochains approvisionnements dès que la situation sécuritaire le permettra. Il va sans dire que les interventions humanitaires du PAM dans la province du Sud Kivu sont gravement affectées. Suite aux récents combats dans les zones d'intervention du PAM, des milliers de bénéficiaires ont abandonné leur site ou leur localité et ont trouvé refuge dans plusieurs autres localités. Lorsque les conditions sécuritaires seront favorables à la reprise des activités, le PAM s'attellera à cibler en premier ceux qui sont dans ces différentes bases de données.
La société civile appelée à mobiliser tous les Congolais à travers les 26 provinces que compte la RDC dans un élan de cohésion nationale et un engagement ferme et patriotique pour vaincre les agresseurs. Déclaration hier à Kinshasa du secrétaire rapporteur national du cadre de concertation nationale de la société civile à l'ouverture officielle de la plénière des présidents provinciaux de la RDC et des membres des quatre coordinations nationales rotatives de ce cadre. Pour Ousseni Fataki, cette occasion permettra au cadre de concertation nationale de la société civile de contribuer à un éveil patriotique au sein de la population congolaise. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous aurons à concevoir une stratégie d'action à mener qui permettra au cadre de concertation nationale de la société civile d'organiser les assemblées générales électives afin de permettre à celui-ci de renouveler les mandats de ses organes. Nous nous attarderons également à faire l'analyse approfondie de la situation économique, sociale et sécuritaire du pays. Les résolutions concerneront principalement les actions que le cadre doit mener pour pouvoir contribuer au retour de la paix, la sécurité et le développement de notre pays. Le pays est en danger. Nous vivons des situations très compliquées. Il y a des provinces qui sont aujourd'hui en proie à l'agression. Le Sud Kivu et le Nord Kivu sont occupés aujourd'hui par les étrangers, bien sûr avec la complicité de certains compatriotes. Et la société civile aujourd'hui est debout et engagée pour pouvoir faire l'échec à l'ennemi. Ne peut trouver la solution que si une fois nous nous mettons ensemble, cette occasion que nous nous offrons nous permettra en fin de compte à nous exprimer, à nous engager davantage et puis à contribuer à un éveil patriotique au sein de la population congolaise.
Le cuivre et le cobalt bouclent ces jours notre série de reportages sur l'exploitation et l'exportation des produits miniers de la RDC pour la période allant de janvier 2023 à septembre 2024. C'est sur base des tendances publiées par la cellule technique de coordination et de planification minière du ministère congolais des mines. Ces deux minerais sont exploités exclusivement pour ce qui est de ces tendances dans le secteur industriel dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Billy Ivan Lutumba.
Le rapport révèle un accroissement des exportations du cuivre en tombe de janvier à fin septembre 2024 et comparativement à la même période pour l'année 2023. Cet accroissement est de plus de 262 000 tonnes dans la globalité. Parmi les entreprises ayant exporté une plus grande quantité de cuivre métal figure respectivement TFM avec plus de 322 000 tonnes, suivi de Kamoa, SCM, CEMOC qui s'en fout et KCC. Plus de 41 600 tonnes de ce cuivre métal ont été vendues localement. Durant cette même période, de 2024, la quantité cette fois-ci du cobalt métal que la RDC a exporté est également plus importante que l'année dernière. C'est manque qu'il s'en fout avec plus de 50 000 tonnes se situe en tête des entreprises minières ayant exporté plus de cobalt métal en 2024, vient ensuite KCC et avec plus de 24 000 tonnes TFM et Metalcol. Un rappel du ministère des Mines pour clore cette série, la part de la filière artisanale reste minime, particulièrement pour ce qui concerne les métaux cuivre et cobalt. Une étude est en cours pour déterminer la contribution véritable de l'artisanat.
Actualité internationale.
Le Rwanda a annoncé hier la suspension de sa coopération de développement avec la Belgique en raison notamment de la position de Bruxelles sur le conflit à l'est de la RDC. Selon le communiqué du gouvernement rwandais, la Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la RDC visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement.
L'invité.
L'invité de Radio Capi ce matin, c'est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, en RDC. Il réagit aux préoccupations soulevées par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies sur les exécutions sommaires d'enfants attribuées à la rébellion du M23 à Bukavu. Patrice Vaard répond aux questions de Ronelly Ntibonera.
Monsieur Patrice Vaard, bonjour.
Bonjour.
Le porte-parole des Nations Unies a déclaré mardi que le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a commis des exécutions sommaires d'enfants à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez être plus explicite, s'il vous plaît?
Malheureusement, cette équipe nous a été rapportée au moment de l'entrée du M23 à Bukavu, il y a eu des cas d'exécution sommaire d'enfants qui étaient en possession d'armes. Ce qui nous est relaté, c'est que lorsque les FRDC quittaient la ville de Bukavu, ils ont laissé dans certains camps des armes et des tenues, et que les enfants s'en seraient emparés. Ils y ont eu donc, ils ont été pris à partie par les M23 soutenus par le Rwanda. Malheureusement, c'est donc ce qui s'est passé. Nous avons eu des rapports concordants, déjà au moins 2 enfants qui ont été exécutés sommairement. Mais il est aussi fait état de ce que certaines familles avaient déjà récupéré les corps de leurs enfants et les ont donc enterrés. Ce qui veut dire qu'il va nous falloir un peu plus de temps pour avoir une idée exacte du nombre d'enfants qui malheureusement ont péri dans cette situation.
Et lorsque vous parlez des exécutions sommaires, à quoi on peut vraiment s'attendre?
Il faut dire que lorsque nous parlons d'exécution sommaire ou bien d'exécution extrajudiciaire, il s'agit ici, pour faire très simple, de personnes qui ne sont pas des combattants, sont des enfants ou bien des civils qui sont pris pour cible. C'est le cas de ces enfants-là. Il en est différemment des combattants actifs, de ceux donc qui soit sont des FRDC ou des Wazalendo ou du M23 ou de tous les autres groupes armés. Lorsqu'ils sont en belligérance et dans le cadre donc du droit de la guerre, s'ils sont neutralisés, comme les militaires le disent souvent, on ne parle pas d'exécution sommaire. Mais là, lorsqu'il s'agit de civils qui ne participent pas activement au combat, comme c'est le cas de ces enfants, alors nous parlons d'exécution sommaire.
Alors, Monsieur Patrice, si c'est pas un secret, tenant compte des enquêtes que vous avez jusque-là menées, mi-parcours, est-ce qu'on peut avoir les chiffres des enfants qui ont été tués à l'heure où nous sommes à Bukavu?
Je l'ai dit tantôt, c'est encore assez... L'accès à Bukavu est assez difficile. Les quelques défenseurs des droits humains qui rapportent ces situations le font en prenant de grands risques. Et vous vous souvenez, il y a un peu plus d'une semaine, le Conseil des droits de l'homme a pris la mesure de la gravité de la situation et a décidé de mettre en place une commission d'établissement des faits. Cette commission est en train de se mettre en place et évidemment, c'est elle qui va donner une lecture exacte de ce qui se passe. Et nous espérons que tous les groupes qui occupent certaines parties de l'Est de la RDC leur donneront un accès, parce que cette commission ne vient pas avec un a priori, mais vient pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc il va falloir que chacune et chacun contribue et que la vérité soit dite. Je crois que les victimes et leurs parents, leurs familles ont besoin de savoir ce qui leur est arrivé.
Un dernier message à formuler à l'endroit des auteurs et de la communauté internationale.
La place d'un enfant, c'est dans une aire de jeu, sinon à l'école. Donc d'abord, ceux qui donnent des armes aux enfants, c'est irresponsable. Et ceux qui tirent sur les enfants, c'est encore plus irresponsable et inacceptable. Je pense que la communauté internationale se mobilise suffisamment. On l'a vu ces derniers temps. La RDC fait partie de la communauté internationale. Donc je crois que nous tous, vous les journalistes, nous-mêmes qui sommes au service des nations, nous devons conjuguer nos efforts. La situation est déjà trop grave. Mais il y a un espoir, il y a encore la possibilité de te ressaisir pour au moins t'assurer la fin de ces hostilités et que les discussions puissent aboutir à une issue pacifique de tout cela. Moi, je crois que c'est possible. C'est possible aussi de conjuguer ce qui unit les Congolaises et les Congolais, plutôt que de surfer sur ce qui peut les diviser. Ce n'est pas nouveau de le dire, mais je crois que c'est un effort qui doit être fait, consenti par tout le monde. C'est possible de le faire. On peut inverser cette tendance. La situation n'est pas totalement perdue. Ce que le BCNUDH essaye de faire, ce que le Haut Commissariat fait, ce que la MONUSCO essaie de faire, de porter sur la place publique ce que nous observons, ce n'est pas uniquement pour faire un décompte macabre. C'est pour dire que c'est déjà suffisamment grave, mais que nous pouvons toujours inverser cette tendance-là.
Patrice Lahar, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, Radio Okapi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde des mains des maîtres par Alain Goy, un journal coordonné et supervisé par Richard Junior Kamunga. Merci de nous avoir suivis.